Vous êtes sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
C'est la question du jour. Seriez-vous prêt à être la première personne vaccinée en France? Raphaël, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tout le monde. Eh bien écoutez, moi, non.
Bon.
Pas la première personne à être vaccinée. Surtout pas dans le contexte actuel.
Bon, vous serez peut-être la deuxième, mais en tout cas, celle qui est la première pour nous, ça reste Christelle Rebière.
L'OMS redoute une nouvelle vague d'épidémie au début de l'année prochaine en Europe. Elle recommande le port du masque pendant les fêtes en famille. Quant à la vaccination, elle devrait démarrer avant la fin de l'année en France. On attend la validation de l'Agence européenne du médicament le 21 décembre. L'heure du verdict au procès des attentats de janvier 2015. Après 3 mois d'audience intense et parfois chaotique, la Cour d'assises spéciale de Paris doit rendre à 16h sa sentence contre les 14 accusés, soupçonnés d'avoir apporté un soutien logistique aux terroristes. Un trésor inestimable retrouvé chez un pilleur français. Les douanes ont réalisé une des plus importantes saisies archéologiques, au total 27 400 pièces. L'homme qui travaillait avec un détecteur de métaux s'intéressait de près à des sites dans l'est de la France. L'enquête a duré plus d'un an. Dernier jour décisif pour le Brexit, d'après la présidente de la Commission européenne, mais on a déjà utilisé plusieurs dizaines de fois le mot décisif depuis 4 ans. La question de la pêche reste très compliquée.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Le Premier ministre Jean Castex présente aujourd'hui à l'Assemblée nationale la stratégie vaccinale contre la Covid-19. Nous sommes avec Raphaël. Raphaël, je lui posais la question il y a une seconde. Pourquoi vous ne vous feriez pas vacciner en premier, Raphaël?
Mais parce qu'il y a beaucoup d'interrogations, il y a beaucoup de scepticisme, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas.
Bah chez vous, peut-être, mais pas chez tout le monde.
Je pense l'aimer beaucoup aussi, me semble-t-il, le professeur Raoult. Interrogation, scepticisme, attente de la publication scientifique. Mmh. On n'a pas de vraie publication. Moi, je me fie à lui.
Ah si, il y a des vraies publications. Éric Combes, par exemple, les a vues. Et Éric Combes, qui est un infectiologue réputé, au départ, a dit « j'attends la communication » et ensuite, il a dit « j'ai lu les communications scientifiques et je me ferai vacciner ». Il l'a dit hier.
Oui, je sais bien qu'il a reculé là-dessus.
Il n'a pas reculé. Il a dit « je n'avais pas la communication scientifique, donc j'attends ». Et quand il l'a lu, il a dit « je me fais vacciner ». Vous voyez, quand vous dites « il a reculé », non.
Il l'a dit lui-même, il a dit « attention, il faut prendre du recul ». Il a dit « rappelez-vous, les termes, c'était ça, prendre du recul ». C'était au mot près, une des premières déclarations qu'il a faites, sur laquelle il a visiblement, peut-être tant mieux, lu de la littérature. Moi, j'en vois pas, quand je vais sur le site de professeur Raoult, je vois pas de littérature qu'il ait découvert. Bref, donc moi je dis qu'une
donc
chose,
vous,
c'est que
tant que le professeur Raoult n'a pas donné son aval, vous n'y allez pas.
Il vaccine, je me vaccine.
D'accord. Et pourquoi vous avez confiance au professeur Raoult?
Parce que lui, plutôt que de prédire sur les plateaux, télé, etc., il guérit. Il y en a beaucoup que... vous savez, il y a un de ses bouquins qui est intitulé « Mieux vaut guérir que prédire ». Je vois beaucoup qui prédisent et il n'y en a pas beaucoup qui guérissent. Il y en a ceux qu'on voit sur les plateaux, tout ça, vous en connaissez plus que moi, vous en invitez, ils sont quand vers les malades? Quand est-ce qu'ils sont vers les malades? Et je veux dire.
Non, ça, c'est un faux procès. C'est pas parce qu'ils viennent plateau de radio ou télé.
Une demi-heure ici, une demi-heure ailleurs. Ça fait 3 heures dans la journée, 4 heures dans la journée.
Non, vous pouvez pas remettre en cause le fait que ces médecins-là ne le soient pas, précisément.
Non, ne soient pas assez vers leurs patients. C'est pas pareil. Il vaut mieux guérir que prédire. Il vaut mieux peut-être guérir que débattre. Alors,
vous
trop.
Êtes méfiant, Raphaël. Qu'est-ce que vous faites
Très
dans la vie?
Très méfiant. Je suis enseignant.
Vous êtes professeur de droit.
Voilà, et donc Monsieur Raoult, c'est presque un collègue, vous voyez, donc c'est pour ça que j'aime bien et je suis beaucoup, et puis vous êtes mieux placé que moi pour savoir qu'il a soigné plein de gens et qu'il a pas beaucoup, il s'est pas beaucoup trompé, et le juriste que je suis s'est renseigné, il est en train de gagner une grande partie des procès qu'on lui a imputés, des faits dont on l'a accusé, et je peux vous dire que l'inverse, quand il va faire se retourner, il va tout gagner.
Bah écoutez Raphaël, c'est votre avis, c'est intéressant de l'entendre.
Ah, c'est le juriste qui parle là, je peux vous le certifier. J'ai des amis de Marseille qui m'ont dit il est accusé de charlatanisme. On a quand même osé, motivé par certains médecins, l'accuser de charlatanisme. Enfin bon, on n'a qu'à dire que Maradona était un unijambiste aussi pendant qu'on disait.
Ça c'est rigolo.
Non mais honnêtement, ou que Benzema est aveugle.
Bon, voilà. Raphaël, restez avec nous parce que Véronique est médecin et elle habite Lyon et elle doit vous écouter. C'est intéressant. Peut-être Véronique a-t-elle un avis sur ce que vous venez de dire. Bonjour Véronique. Vous êtes prête à vous faire vacciner?
Bonjour Pascal. Bah écoutez, oui, tout à fait. J'ai lu, contrairement à l'auditeur précédent, j'ai lu effectivement des études de Pfizer. Là, justement, j'en ai lu ce matin. Donc voilà. Et effectivement, entre 18 et 55 ans, puisque c'est la plus grande proportion de personnes qui ont été dans les essais. Eh bien, écoutez, le vaccin, il est vraiment fortement recommandé. Donc après, moi, je me pose un tout petit peu la question par rapport aux personnes plus âgées, parce que là, on a moins de recul par rapport aux personnes qui ont participé aux essais. Mais pour les essais cliniques entre 18 et 55 ans, aucun problème.
Voilà. Ce vaccin, d'ailleurs, il prévient contre la maladie, mais est-ce qu'il empêche la transmission de la maladie?
C'est bien le grand problème. Donc là, on n'a pas assez de recul encore, hein, pour savoir ça. Voilà. Mais en tout cas, pour ce qui est des, alors, il y a aussi un autre problème, c'est par rapport aux formes asymptomatiques et des formes très graves où le vaccin, on ne sait pas, a priori, il est moins efficace que pour les formes, j'allais dire les formes classiques, ce qui est un peu ridicule, mais les formes où il y a de la toux, la fièvre, enfin les symptômes qu'on entend, les symptômes style grippe qu'on entend pour la Covid, hein, voilà, la fièvre, la toux, les céphalées, etc. Là, vraiment, il y a des très bons résultats supérieurs à 90% dans la tranche d'âge entre 18 et 55 ans. Pour ce qui est des formes asymptomatiques et des formes graves, là, par contre, ce serait un petit peu moins bien.
Vous êtes généraliste, Véronique ?
Oui, tout à fait.
Bon, vous avez peut-être un mot à dire à Raphaël, qui vous entend et qui est professeur de droit et qui est très méfiant.
Je vais retourner, Raphaël, vers un de mes jeunes confrères, qui est Baptiste Beaulieu, qui est écrivain et qui est médecin, qui est auprès des patients, vraiment, et qui fait part de tout ce qu'il peut entendre, et notamment qu'il a pu lire aussi concernant le professeur Raoult. Donc je suis tout à fait dans la même mouvance que Baptiste Beaulieu, et donc lui aussi se ferait vacciner si le vaccin il arrive, il va se faire vacciner. C'est ce qu'il a dit aussi sur une autre antenne que la vôtre, et je l'encourage vraiment à suivre, enfin j'encourage d'ailleurs tout le monde à suivre l'Instagram de Baptiste Beaulieu, parce qu'il met des choses qui sont vraiment très très bien documentées.
Baptiste Beaulieu, écoutez, voilà, on va regarder Baptiste, et puis Beaulieu, Raphaël va vous répondre après la pub.
Merci.
Restez avec nous, restez Véronique, et puis à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Laurent Tessier, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Seriez-vous prêt à être la première personne vaccinée en France? Eh bien sûrement pas, écrit Pierre sur la page Facebook de l'émission. Je ne me ferai d'ailleurs pas vacciner, pareil pour ma famille. Il s'interroge, sera-t-il vraiment sûr? On entend tellement de choses. Autre question, celle de Patrice. Comment faire confiance à un gouvernement qui fait n'importe quoi? Je ne suis pas un cobaye, lance Micheline. Je préfère attendre, rajoute encore Titi. Didier a une demande, vaccinons tout le gouvernement. Pour Alain, être le premier vacciné, ce n'est pas important, mais être rapidement vacciné, oui. Et Caroline vous rejoint, Pascal, vous savez, sur l'Organisation Mondiale de la Santé qui préconise le port du masque, voilà, lors des réunions familiales de Noël.
Oui.
Bon, ça va être pratique pour déjeuner, écrit Pierrick, et de belles prises de tête en perspective avec les grands-parents rebelles, les ados, conclut Joël.
Bien sûr, l'OMS qui recommande de porter le masque le soir de Noël. Bon, Raphaël, on vous dit au revoir, sauf si vous voulez dire un petit mot à Véronique, qui était médecin.
Je vais juste dire, j'étais très content les propos médicaux. Moi, la littérature médicale n'est pas la mienne. Hein. Mais bon, je me fie beaucoup aux propos de Raoult.
J'ai bien compris.
Quotidiennement, je vais lire ce qu'il dit. Ouais. C'est lisible, c'est intelligible. Et puis, le jour où il donnera son feu vert, je le ferai.
Mais bon, merci, Raphaël.
J'attends. Merci pour votre émission.
Ben non, merci à vous. Merci également à Véronique. Fouette est enseignant. Bonjour, Fouette.
Bonjour.
Donc
bon,
vous. Alors, je crois qu'on vous avait eu d'ailleurs la semaine dernière déjà, et vous disiez que vous n'auriez pas de problème à vous faire vacciner. Et pourquoi pas être le premier vacciné en France?
Oui, en temps normal, moi, comme je ne suis pas une personne à risque, je voudrais pas être prioritaire, mais comme je sens bien qu'il y a un peu de tergiversation, moi, je le ferai sans hésiter. D'ailleurs, je trouve ça assez fascinant, là, l'auditeur précédent qui nous parlait du professeur Raoult. Vu qu'en France, il y a une espèce de mouvement dans l'opinion publique pour autoriser le traitement à la chloroquine, qui a été testé sur, je ne sais pas moi, à la louche, 16 personnes sur un essai sans test à l'aveugle, sans test randomisé. Et là, on a un vaccin qui a été testé sur des dizaines de milliers de personnes, et d'un coup, il y a un doute. Donc ça, déjà, j'ai du mal à comprendre. Et ensuite, bah, moi, je crois qu'on est beaucoup dans une société de la précaution. Vous dites souvent l'expression, les gens qui mettent une ceinture et des bretelles. Mmh. Donc si on est dans une société où vraiment on est plutôt dans un excès de précaution, j'imagine mal des autorités sanitaires et politiques nous envoyer à l'abattoir. Le terme est un peu exagéré, mais voyez l'idée, quoi. Je suis pas sûr qu'on soit dans... On n'autorise pas les choses à la légère, je pense, en France.
Je, pour tout vous dire, je suis un peu quand même de votre avis. Je n'imagine pas que si ce vaccin a passé toutes les procédures, qu'il est mis sur le marché et proposé aux Français, je n'imagine pas, vu les laboratoires et vu également les conséquences politique que ça aurait, que ça pourrait avoir, je n'imagine pas que ce vaccin puisse être dangereux. Voilà. Alors je ne sais pas si il sera complètement efficace, mais déjà j'imagine pas qu'il puisse être dangereux. Maintenant, peut-être sommes-nous naïfs et peut-être ne pensons-nous pas à des conséquences par définition qu'on peut pas avoir parce qu'il y a peu de recul. Il y a peu de recul. Objectivement, il y a pas de recul. Le vaccin, il a même pas. Il a deux mois.
Pour moi, je pense que c'est plus un besoin. Il y a une grande passion. On valorise beaucoup la contestation en France et je pense que ça relève de ça. Si le vaccin, s'il y avait eu que 50 000 doses en France et que le vaccin coûtait 2 500 € l'injection, là, vous auriez eu la contestation. Elle serait allée dans l'autre sens en disant mais c'est scandaleux, c'est un vaccin pour les riches. Pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas pour tous les Français? Il y a de ce côté-là malgré tout.
Ben écoutez, merci Foued, merci beaucoup. Nous avons beaucoup de sujets aujourd'hui, je l'ai dit, on pourra rendre hommage à Caroline Cellier. Je vais vous lire quand même les mots formidables de son fils, Nicolas Poiret. Caroline Cellier, elle est décédée, elle avait 75 ans, ce qui est très très jeune. Aujourd'hui, on se quitte pour quelques minutes, a-t-il écrit, mais tu auras été, tu resteras éternellement ma force, mes fous rires, mes angoisses, ma dérision, mes coups de sang, ma chevalière des injustices, ma détectrice d'hypocrisie, ma lune, ma moon, ma mère, ma bataille. A-t-il écrit, c'est Caroline Cellier qui était la veuve de Jean Poiret et Nicolas Poiret est le fils donc de Jean Poiret. Elle avait joué notamment, on le disait tout à l'heure, dans L'année des Méduses. Elle avait eu le meilleur second rôle féminin pour son rôle en 85. Et on le disait avec Christelle, c'est pas forcément un immense film, L'année des Méduses, mais c'est un film qui a marqué une époque. Il y avait Valérie Caprisky, il y avait vraiment ce film et ce scénario de Christopher Frank, qui écrivait très bien, qui avait écrit également un film qui s'appelait Josepha, qui était un film très très délicat. Et vous avez peut-être envie de lui rendre hommage. On va parler des primaires, figurez-vous. À droite, on va faire un petit écart du Covid, et Bernard est là, Bernard qui habite Josier, on dit comme ça
Bernard. On dit Josier, le plus beau village de France, j'ai l'occasion de le dire.
Exactement.
Il est sous le soleil et sous la neige, je peux vous dire.
Ah ça c'est merveilleux. Mais oui, on ne peut pas skier.
Le soleil, c'est fantastique.
On n'a pas le droit de skier.
Ah non, on n'a pas le droit de skier, mais vous savez, ici, on s'en sort, c'est-à-dire qu'on met les pots de phoque, on monte et puis on skie.
À l'ancienne.
À l'ancienne.
Non mais c'est vrai ça, sans blaguer, c'est vrai que vous mettez les pots de phoque et vous montez jusqu'en haut.
Non mais pas moi, je l'ai pas fait parce que là j'ai pas encore le courage. Ouais. Mais j'ai mon gendre, ma fille, tout ça, ils font ça, voilà.
Mais elles sont pas préparées les pistes.
Comment ?
Elles sont pas préparées les pistes.
Bah non, mais vous savez ici ils skient bien. Hein, les gens c'est pas parce que les pistes sont pas damées que les gens ils skient pas ici. Vous savez, il y a même des anciens, ils ont eu l'habitude de skier dans des conditions difficiles avec des skis en bois, vous savez, donc. Ça les embête pas. Hein.
Bon, revenons à la primaire. Vous êtes électeur des Républicains ?
Oui, mais moi je pense que... Alors moi j'étends même un peu, parce qu'il faut absolument que les Républicains fassent une primaire. Alors après on va dire la primaire, oui, mais ils tapent dessus, tout ça. Parce que s'ils font pas, et c'est comme... il faudrait que les gauches se réunissent aussi pour trouver un candidat. Moi, l'objectif, c'est de trouver un candidat à gauche et aussi un candidat à droite et pas en avoir pléthore, parce que avec leur ego surdimensionné, ils pensent que eux, ils sont meilleurs que les autres. Donc se mettre derrière quelqu'un, c'est difficile. Mais n'empêche que si on fait pas ça, les voix vont s'éparpiller. Vous aurez, Xavier Bertrand qui aura 7%, Valérie Pécresse qui en aura 5, j'en sais rien. Et donc on va se retrouver avec Macron versus Marine Le Pen. Voilà. Et donc, du coup, bah, on n'aura pas le choix. Voilà. Donc,
mais pour qui vous voteriez, vous, par exemple, s'il y avait des primaires à droite? Quel est votre candidat préféré?
Alors, moi, je suis plutôt de gauche, mais quand même...
Ah oui, effectivement, ça ne vous concerne pas tellement, en fait, les primaires.
Pour moi, Xavier Bertrand, je voterai pour lui. Oui, oui. Moi, je pense que Xavier Bertrand, c'est quelqu'un qui est... Il a prouvé dans le Nord, c'est quelqu'un qui est au LR, mais il a quand même des sensibilités de gauche. D'ailleurs, il a été élu grâce à la gauche, hein, puisque la gauche s'est désistée, si vous voulez, pour parce que comment Marine Le Pen était arrivée assez haut là-bas, hein, dans le Nord. Donc voilà. Donc lui, par contre, et je sais parce que je, si vous voulez, je navigue un petit peu dans, j'ai des amis qui travaillent avec lui. Bon voilà, il s'est battu comme un malade lorsqu'on a eu des, vous savez, on a eu beaucoup d'entreprises qui sont fermées dans le Nord, hein, et donc il s'est battu comme un malade. C'est quelqu'un qui a quand même une sensibilité humaine, et puis qui est quand même, bon, c'est quelqu'un qui est réaliste et tout ça. Donc moi, je pense que ce gars-là, et puis je le vois bien en débat vis-à-vis avec Macron, ce serait un débat de, à mon avis, de haut niveau. Mais le problème, que s'ils font pas de primaire, eh ben, de toute façon, il passera pas, parce qu'il aura quoi? Il y aura 10%, j'en sais rien, moi. S'il se présente, hein, on sait pas encore s'il se présente.
Ben merci, voilà. Bernard, de ce témoignage sur les primaires. Ça fait partie des sujets sur lesquels vous pouvez intervenir aujourd'hui. J'ai dit Caroline Cellier tout à l'heure. J'ai dit évidemment ce qu'a dit Zinedine Zidane sur Benzema. C'est le plus grand attaquant, le plus grand avant-centre français de tous les temps. Vous pourrez également réagir sur un autre sujet qui a beaucoup plu à notre ami Laurent Tessier. Faut-il supprimer les aides sociales aux familles de délinquants? Voici donc le programme. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
C'est un sujet qui revient régulièrement à la une de l'actualité. Faut-il supprimer les aides sociales aux familles de délinquants? Et c'est le maire des Républicains de Valence, Nicolas D'Aragon, qui a fait voter en conseil municipal la suppression de certaines aides de la mairie pour les familles de délinquants. Il y a des violences urbaines qui avaient eu lieu sur sa commune en octobre. Alors, on est avec Majid. Majid qui est délinquant, qui est étudiant. Et excusez-moi, Majid, et qui est étudiant en histoire à Valenciennes et qui veut intervenir sur ce sujet des délinquants, pardonnez-moi.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Je voulais juste te dire que j'ai du mal à voir en fait la pédagogie là-dedans. En fait, j'ai du mal à comprendre l'objectif de ça. On va punir des gens, qui peuvent être innocents. Pourquoi punir les familles pour l'acte d'une personne? Enfin, j'ai du mal.
C'est pour les responsabiliser, mais j'avais entendu l'excellent argument de Maître Dupond-Moretti, aujourd'hui garde des Sceaux, qui citait l'exemple d'une famille qui est en difficulté et puis qui a trois enfants qui réussissent très bien, qui font des études, etc. Et puis il y a un quatrième, malheureusement, qui est délinquant et pour cette famille et qui, effectivement, va priver l'ensemble de ses trois frères et sœurs et l'ensemble de sa famille d'une aide qui est décisive pour travailler et pour, effectivement, se permettre de s'en sortir. Donc, j'avais trouvé cet argument plutôt excellent, Majid.
Exactement. Moi, j'habite un quartier qui est particulièrement difficile. Et je vois par exemple des familles qui sont monoparentales avec des mères qui ont du mal à s'en sortir, avec deux ou trois enfants qui tombent dans la délinquance. Et je pense qu'une mesure pareille, ça va pas les aider, quoi. Ça calmera pas leurs enfants. Enfin, je veux dire, on a une justice pour mineurs. Il existe même des prisons pour mineurs. Donc quand il faut faire de la répression. On a les moyens, on a les outils.
Est-ce que ce serait efficace que punir toute une famille? Est-ce que le jeune délinquant ne passerait pas précisément à la délinquance, ce jeune ou cette jeune personne, s'il savait que toute sa famille était privée d'allocations? Je ne peux pas répondre à cette question. On n'a pas de statistiques, d'ailleurs, là-dessus.
Cité, par exemple, hein, dans le cas que vous avez cité, enfin, qui a été cité par le ministre de la Justice, est-ce qu'au contraire, ça ne va pas avoir l'effet inverse sur les autres enfants de la fratrie, par exemple, qui vont,
Je ne pense pas non plus, mais il y a quelque chose de punitif là-dedans qui est... on n'est pas à l'école, quoi. Une société, on n'est pas à l'école, on punit pas les gens. Mais ça serait intéressant d'ailleurs d'avoir Nicolas D'Aragon, le maire de Valence, de savoir comment il a justifié cette suppression de certaines aides de la mairie pour les familles de délinquants. J'aurais savoir d'ailleurs précisément ce que sont ces aides de la mairie. Ça peut être aussi intéressant d'écouter les deux côtés, Magine, mais je vois que vous ne partagez pas cet avis.
C'est un peu électoraliste, je pense, pour dire voilà.
C'est possible.
Il faut montrer qu'on réagit, qu'on a une réaction, qu'on a. Mais bon, sincèrement, je pense pas du tout que ce soit la bonne.
Merci pour ce témoignage. Merci beaucoup. Vous êtes étudiant en histoire.
C'est ça, oui.
Bon, et donc à la suite de vos études, vous préparez le professorat peut-être.
C'est ça, exactement.
Et bon courage, parce qu'en ce moment, ça doit être compliqué en plus.
Oui, c'est assez compliqué. Ouais. La faculté en ce moment, c'est principalement à distance, et puis bon, on se débrouille, quoi. Mais ça va.
Merci, Magid. Il est 13h24 sur RTL.
Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
C'est étonnant parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'appels et des appels sur des sujets très différents. Donc, on jongle un peu avec le vaccin, avec ce sujet que je viens d'avoir avec Magid. Mais on peut reprendre Charles sur les primaires, puisque c'est un sujet qui vous intéresse. Alors, c'est plus intéressant, évidemment, Charles, si vous êtes un électeur des Républicains.
Eh bien, écoutez, je ne suis pas un électeur des Républicains et je risque pas de le devenir.
Oui, ça concerne quand même essentiellement les Républicains, j'ai envie de dire, les primaires, parce que c'est pas la même culture à droite que la culture à gauche.
Oui, mais je pense qu'on n'est pas, c'est pas forcément aussi simple que ça, vous savez. On n'est pas forcément, binaire dans nos choix politiques, surtout maintenant. Parce que voilà, les cartes sont beaucoup plus brouillées qu'avant. Avant, c'était beaucoup plus clair, beaucoup plus simple en réalité. Maintenant, vous voyez bien que depuis l'arrivée au pouvoir de Macron, c'est un peu il y a une espèce de tout à l'égout idéologique, puisqu'il s'est entouré de personnes venant de tous bords, avec ce que ça comporte en fait comme on va dire division, manque de clarté, manque de lisibilité à tous les niveaux d'ailleurs. Donc, vous savez. C'est pas forcément parce qu'on est. Moi, j'avais voté hein, lorsqu'il s'agit des primaires avec Fillon, etc. à l'époque.
Ah, vous aviez voté quand même.
Bien sûr, je suis
pour la dernière primaire de la droite.
Ouais, bien sûr.
Ouais, donc là, vous étiez plutôt électeur à droite.
Pas du tout.
Mais vous étiez allé.
Je voulais. Il y a un candidat.
Pourquoi vous aviez voté alors?
Pour ça, pour donner plus de voix à un candidat que je ne voulais absolument. Enfin.
Ah oui, c'était pervers. Vous aviez voté pour celui que vous pensiez le plus mauvais.
Non. C'est-à-dire que je votais contre celui que je ne voulais absolument pas. Voilà. Et je voulais pas qu'il recueille tous les suffrages, tout ça. Donc c'était. Oui,
bon, vous êtes pour ou contre les primaires alors aujourd'hui?
Pour ou contre?
Oui.
Je trouve que c'est complètement inutile, surtout au niveau des Républicains. Mais je pourrais dire exactement la même chose du côté du Parti socialiste. Ça n'a aucun intérêt. Ça n'a plus aucun intérêt. Dans la mesure où c'est des partis qui sont moribonds, il n'y a plus aucun personnage, on va dire, emblématique, charismatique, qui pourrait recueillir l'adhésion du peuple, en quelque sorte, hein, de son électorat et même aller au-delà.
Mais c'est précisément parce qu'il n'y a personne qui vraiment écrase le marché, si j'ose dire, qu'on fait des primaires.
Tout
le monde est égalité, c'est-à-dire que comme t'as pas une tête qui dépasse, comme t'as pas un leader naturel, effectivement, on fait des primaires un peu pour ça. Merci Charles, en tout cas.
En tous les cas, excusez-moi, c'est pas avec des candidats comme Xavier Bertrand, Christian Jacob, François Barouin, de toute façon, il a dit que ça l'intéressait pas, Valérie Pécresse. En fait, c'est agaçant. De voir que ces personnes-là ont été au pouvoir pendant des années et que maintenant, en fait, ils viennent sur les plateaux faire la leçon à tout le monde, y compris à gauche aussi, hein, des politiques qui deviennent chroniqueurs, sur CNews, par exemple. Mais c'est vrai que c'est très agaçant parce que finalement, ils viennent faire la leçon à tout le monde maintenant sur ce qu'il faut faire et sur ce que eux n'ont pas eu le courage de faire quand ils étaient aux responsabilités.
Merci Charles.
Du coup, ils se décrédibilisent complètement. Donc, ils peuvent faire une primaire, 12 primaires, 20 primaires. Ça changera absolument rien.
Voilà. Je vous presse parce qu'il est 13h28 et que nous avons notre rendez-vous de Noël à 13h30. Vraiment, merci beaucoup Charles et Laurent Tessier.
Oui, vous pouvez continuer de nous appeler au 3210 sur d'autres sujets. Connaîtra-t-on un jour la vérité sur l'affaire Grégory en 1984? Grégory Villemin, 4 ans, est retrouvé mort, noyé. Un dossier toujours plein de mystères. Selon Le Parisien, de nouvelles auditions de témoins ont eu lieu il y a quelques jours. Maître Gérard Velzer, avocat de Marie-Ange Laroche, était l'invité de RTL Midi.
J'y crois pas dans cette nouvelle expertise. Vous savez, combien fera-t-il de victimes pour qu'on soit prudent dans ce drame? Si on n'a pas quelque chose de non contestable, il faut absolument éviter de jeter en pâture le nom d'une personne.
L'attaquant du Real Madrid, Karim Benzema, est-il le meilleur avant-centre français de l'histoire? Pour moi, oui, c'est le meilleur. Déclaration hier soir de Zinedine Zidane en conférence de presse. Partagez-vous cet avis. Qui pour vous est le plus grand attaquant français? 32-10. Et vous pourrez rendre hommage à l'actrice Caroline Cellier qui nous a quittés mardi à l'âge de 75 ans. Son gros rôle populaire au cinéma, au théâtre et aussi à la télévision, Pascal.
13h29, une publicité. Nous revenons pour le cadeau de Noël.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. RTL Midi.
Il est 13h31. Je vous laisse avec la petite musique de Noël. Je salue d'ailleurs Damien Béchiot.
Bonjour Pascal.
Aujourd'hui aux commandes. Qui est Monsieur Cadeau?
Tout à fait.
C'est vous l'homme du cadeau. Tous les jours à 13h30, on a un auditeur avec nous, une auditrice, qui évoque un souvenir de Noël. C'est Guillaume, bonjour.
Oui, bonjour Pascal Pro.
Merci d'être avec nous. Vous habitez dans le Finistère.
Oui.
Donc un souvenir récent puisque vous êtes jeune, vous avez 22 ans.
Vieux pour moi, parce que mon plus beau souvenir de Noël, ça reste que quand j'étais petit, la première fois que j'ai vu le Père Noël à une fête d'école, on en faisait une en primaire chaque année, et il y a le Père Noël qui arrivait à chaque fois, Père Noël, et il y a toujours ce souvenir que je ressors souvent, parce que c'est assez simple, mais voilà quoi, c'est assez même classique, mais c'est un gros souvenir de Noël, c'est mon souvenir préféré.
Bah évidemment. Et vous aviez pu garder cette âme, j'allais dire, d'enfant à travers les âges.
J'aime toujours autant elle, bien sûr. Il y a tout le côté folklorique que j'aime beaucoup. Et oui, ce côté, on se rassemble, on revoit nos amis, on revoit notre famille. On partage des choses, on s'offre des choses. Oui, Noël, c'est vraiment quelque chose. J'ai pas perdu ça. J'adore Noël.
Qu'est-ce que vous allez faire là?
Pour Noël?
Oui, le 24.
Ah ben je retourne chez mes parents et on fête Noël simplement.
Vous serez combien?
On le fête comme tout, on le fête à 5 environ.
Donc et d'habitude vous êtes aussi à 5 ou cette année?
Oui, toujours oui. Ça c'est sacré, la famille sacrée à 5.
Donc il y a pas de changement par rapport à la saison dernière.
Non, pas du tout non.
Bon, et vous faites ça le samedi soir? Quoi, le samedi soir, le soir du 24?
Non, on le fait le 25 nous.
D'accord.
C'est comme ça, oui, je ne pourrais pas trop expliquer, mais on fait toujours comme ça.
Bah non, mais chaque famille a ses traditions, et parfois c'est, oui, c'est et le 24 et le 25. Parfois on fait le 24 dans une famille, et puis on fait le 25 dans l'autre famille.
Oui.
Bon, la chanson de Noël, c'est aussi un rituel, et comme on est aujourd'hui le 15 décembre, il nous reste encore 9 jours de 9 chansons à écouter. Quelle est celle que vous avez choisie?
Alors, c'est une très classique. Alors, j'ai 22 ans, mais j'aime beaucoup écouter les classiques de Noël. Et c'est une du chanteur Bing Crosby qui s'appelle Happy Holidays. C'est une chanson, assez vieille, parce que ça reste un chanteur qui il est mort aujourd'hui, mais c'était pour moi un grand chanteur que j'aime beaucoup écouter. Et c'est une chanson classique, mais que j'aime beaucoup et qui représente beaucoup Noël pour moi.
Eh ben, écoutons-la.
Happy Holidays. Happy Holidays. While the merry bells keep ringing, may your every wish come true. Happy holidays, happy holidays.
Bing Crosby. Né en 1903 à Tacoma et mort en 1977 en Espagne. Chanteur évidemment qui est associé aux chansons de Noël, Bing Crosby. Merci Guillaume, vous avez le droit à un cadeau.
Et pas qu'un.
Ah,
trois cadeaux, Jean.
Non.
Si.
Alors, il a le droit à trois cadeaux, notre ami. Tant mieux pour lui,
parce
d'ailleurs.
Parce qu'on est mercredi. Ah. Et parce que Greg n'est pas là.
Formidable.
Alors, déjà, Guillaume a le droit au Hit RTL, à la compile. Ce sont tous les plus gros tubes de l'année 2020.
D'accord.
Guillaume, très bien. Elle doit aussi, oui. Elle a une boîte de jeux Macomoulage. Je ne sais pas si Guillaume connaît.
Non, ça me dit rien, non. En
fait, Macomoulage, c'est quand on était enfant, mais Guillaume, on n'était pas enfant à la même période, donc vous n'avez pas connu.
C'est cela, oui.
En fait, vous aurez 4 moules en silicone, du plâtre, et vous pourrez faire des petits animaux vous-même, et après vous pourrez les peindre ou les offrir à un enfant.
D'accord.
Que vous connaissez.
D'accord.
Et ce n'est pas tout, Guillaume.
À l'occasion des fêtes de Noël qui approchent, RTL offre à tous les auditeurs qui passent à l'antenne cette semaine un lot de chocolat Jeff de Bruges. Chaque lot contient les meilleures recettes gourmandes Jeff de Bruges.
Très bien.
Voilà. Vous êtes gâté, hein.
Ah oui, gâté. Non,
franchement, là, c'est bien, Guillaume. Vous avez eu de la chance de venir. Merci, Guillaume.
Merci, RTL, et merci, Monsieur Pro.
Merci, 13h36 sur RTL. Let it snow.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Alors, est-ce qu'on va avoir quelqu'un des Républicains pour parler des primaires? Parce que c'est bien de parler des primaires, mais quelqu'un qui vote pour les Républicains. Bonjour Cédric.
Bonjour Pascal.
Vous êtes un électeur des LR?
C'est ça, ouais. Alors moi, je suis droite, je suis pour les Républicains. En revanche, pour moi, la primaire, ça ne sert à rien. Elle sert à rien, hormis à diviser un peu plus le parti. On a vu les dernières primaires républicaines, c'était une catastrophe. Ça a aussi tué la gauche, hein, malgré tout, les primaires. Et puis après, je me dis, à partir du moment on veut diriger un pays, mais on n'est déjà pas capable de s'entendre nous-mêmes. C'est quand même catastrophique, quelque part. C'est pas une bonne représentation. Si vous voulez, il y a des partis comme LFI avec un leader qui se dégage naturellement. Le Rassemblement National a un leader aussi qui se dégage naturellement. La gauche, ils ont plus ça. La droite, ils ont plus ça. On sait pas. Enfin, si, à part Sarkozy qui revient assez souvent. Maintenant, est-ce qu'il va se présenter ou pas? On ne sait pas. Mais je pense que commencer les élections présidentielles par une primaire en se tirant un peu tous dans les pattes, comme ça s'est passé avec le cas Fillon, je trouve que ça va pas nous aider, au fait. Il faudrait qu'on ait un leader naturel.
Oui, mais comme il n'y en a pas, quel est pour vous le meilleur leader aujourd'hui des Républicains?
Ah, mais de toute façon, le meilleur leader des Républicains aujourd'hui, pour moi, c'est Nicolas Sarkozy.
Vous oubliez, parce qu'a priori, il ne veut plus. Il dit que j'ai arrêté la politique.
Il le dit, mais les politiques, ils aiment bien les courbettes. À partir du moment où différentes personnes vont les chercher, il va finir par revenir.
Admettons qu'il ne revienne pas, qu'il n'ait plus envie, et puis il y a d'autres, parfois, raisons qui peuvent l'éloigner de la course à la présidentielle. Est-ce que Bruno Retailleau, est-ce que Valérie Pécresse, est-ce que Xavier Bertrand
Moi, personnellement...
Est-ce que Nadine Morano, pourquoi pas?
Non, surtout pas. Si aujourd'hui Sarkozy ne revenait pas, j'aimerais qu'à la tête des Républicains pour représenter cette présidentielle, ce soit une femme. Voilà, qu'on ait une
donc
femme.
Donc Valérie Pécresse.
Pourquoi pas? Exactement. Mais surtout pas Nadine Morano. C'est un personnage clivant. Elle divise par ses différentes interventions. C'est pas bon non plus pour ce parti. D'ailleurs, elle ferait mieux de changer de parti. Ça lui irait mieux.
Vous avez raison. Mais ouais. Nicolas Sarkozy, lui, n'est pas clivant non plus.
Si, il est clivant, mais c'est un leader naturel. Il a du charisme. C'est un leader. Les autres l'ont pas. Tous les autres ne l'ont pas. Ils n'ont pas ce leadership que peut avoir Nicolas Sarkozy ou que peuvent avoir certains dirigeants d'autres partis.
Eh ben merci, voilà. Cédric. Visiblement, c'est un thème qui prend pas mal avec les auditeurs, puisque Laurent sera là également sur les primaires à droite. Donc on va marquer une pause, à tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
On poursuit avec ces primaires à droite et avec Laurent qui est avec nous. Bonjour Laurent.
Bonjour Pascal.
Vous êtes un électeur des Républicains?
Oui.
Le patron des sénateurs des Républicains, Bruno Retailleau, veut que son parti organise une primaire d'ici octobre 2021. Alors si, évidemment, il demande qu'il y ait organisation des primaires, c'est qu'il pense, Bruno Retailleau, qu'il peut la gagner, je pense, Laurent.
Bah, j'espère. S'il y a une primaire, c'est clair que je voterai pour Bruno Retailleau, car c'est à mon avis le seul qui a l'expérience et qui a les compétences pour aller jusqu'au bout d'une présidentielle. Mais avant tout, je pense qu'une primaire ne sert à rien, même si c'est lui qui la préconise. Je pense que ça sert à rien. Aujourd'hui, une primaire, ça sert à mettre en exergue les micro-parties à l'intérieur d'une même famille. On les entend se pouiller, se voir presque s'insulter pendant la campagne des primaires. Et ensuite, on nous fait croire qu'ils vont se retrouver derrière leur leader qui aura été élu, et que tout se passera bien. Or, on sait pertinemment que tout ne se passera pas bien, puisque il y a des fâcheries. Et du coup, à mon sens, ça discrédite complètement un parti. Aujourd'hui, un parti doit avoir une tête de liste. Le linge sale se lave en famille, on discute avant, on le nomme, et ensuite on est derrière lui et on ne bouge pas de cette ligne.
Mais la difficulté, c'est effectivement si on a des candidatures multiples, parce que les Républicains sont les enfants de l'UMP, l'UMP est la fille de l'union du RPR et de l'UDF, et souvenez-vous, avant la création de l'UMP, il y avait donc ces deux familles de droite, et vous avez eu en 80 Chirac et Giscard, deux candidats de droite, en 88 vous avez eu Raymond Barre et Chirac, de mémoire, donc il y a parfois eu deux candidats de la même famille, et les primaires sont là pour empêcher que deux candidats de la même famille soient au premier tour.
Oui, mais...
Alors c'est vrai que les deux familles de droite pesaient infiniment plus que les Républicains aujourd'hui. Le paysage a changé.
Mais ensuite, je préfère à la limite qu'il y ait deux candidats assez forts au premier tour et qui se retrouvent... Que dans un premier temps, il y en a deux qui s'affichent, mais qui se mettent d'accord avant.
Les Républicains aujourd'hui pèsent entre 10 et 12. Donc si vous en avez deux au premier tour, il ne va plus rester grand-chose.
Oui, mais c'est pas... Moi, je trouve que c'est la nouvelle façon de faire de la politique qui est, à mon sens, pas très propice pour gagner derrière. Je veux dire, toutes les primaires, quels que soient les partis, d'ailleurs, on s'aperçoit que c'est la guerre ouverte et que ça mène pas loin.
C'était pas une tradition française, les primaires. C'est une tradition évidemment américaine, mais évidemment, François Mitterrand, il n'y avait pas de primaire en 81, ni en 88 non plus. Jospin, je pense pas qu'il y avait des primaires de mémoire en 95. Non. Donc il n'y a pas de...
Non, c'est très récent.
C'est très récent, les primaires, et c'est plutôt une culture de gauche, disons-le au départ, puisque à droite, on considère que c'est un rapport privilégié avec le pays, donc tu t'engages, voilà, tu te moques des primaires. Si tu penses que tu peux être président de la République, tu y vas.
Exactement, et on doit se retrouver, en tous les cas, on doit se retrouver dernière Bruno Retailleau, qui, à mon avis, est le seul à poser les vrais problèmes pour redresser la France et pour faire enfin que ce pays soit uni et non pas comme tout ce qui se passe depuis ces dernières années où que tout le monde se désunit à coup d'annonces stériles et sans intérêt.
Eh bien, merci beaucoup, Laurent. On va marquer une nouvelle pause et ensuite on va rendre hommage à Caroline Cellier qui est décédée aujourd'hui. Je disais tout à l'heure qu'elle était très jeune. C'est vrai que 75 ans, c'est jeune aujourd'hui, évidemment, pour mourir, même si elle avait avancé dans la vie. Et c'est son fils Nicolas qui l'a annoncé. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Décidément, on ne regrettera pas 2020 parce que le décès de Caroline Cellier a plongé beaucoup de ses admirateurs dans la tristesse. Je regardais notamment sur Twitter, elle est en top tweet, comme on dit. Il y a beaucoup de tristesse et tout le monde salue sa classe, son énergie, son élégance, son sex appeal, disons-le également. Et elle était née en 1945, elle est morte aujourd'hui à 75 ans et son fils lui a rendu hommage. Bonjour Nathalie.
Et bonjour.
Et merci d'être avec nous.
C'est gentil. Moi, c'est vrai que je vous écoute tous les jours. Et puis ben, là, aujourd'hui, moi, j'étais un petit peu bouleversée d'apprendre son départ. Parce que j'ai toujours trouvé comme une grande actrice, malgré qu'elle n'ait jamais eu de premier rôle, hélas. Et qu'on n'ait jamais vraiment reconnu au niveau de la profession sa carrière. C'est vrai qu'on parle beaucoup de l'Anne des Méduses. Bon, après, les films qu'elle a fait avec son mari. Mais le dernier que je me repasse souvent en boucle, c'est Thelma, Louise et Chantal. Mmh. Un film qu'elle a tourné dans ma région avec Jane Birkin. Et c'était vraiment Je l'ai aussi adoré dans Le Zèbre. Que la bête meure et tout ça, ça c'est... Voilà, c'est...
Que la bête meure, elle est la partenaire de Julianne.
Ouais. Mais jamais aucun scénariste lui a apporté, en fait, un grand rôle. Et ça, je le regrette. Parce qu'elle avait justement une classe et puis elle avait une beauté. C'était une femme magnifique. Et donc, c'est vrai, je suis un peu en peine aujourd'hui. Surtout que j'ai appris par votre radio, dès ce matin, son décès. Et voilà, ça m'a un petit peu chagrinée.
Elle avait joué la Mégère apprivoisée également au théâtre.
Ouais,
et
au
puis
théâtre,
Chabrol, Sagan, Verneuil. Ouais. Elle est dans un joli film qui s'appelle 1 000 milliards de dollars. Elle est chez Francis Giraud.
Dans L'Emmerdeur aussi.
Elle est dans L'Emmerdeur, c'est la femme de Jacques Brel.
Oui, aussi.
Exactement.
Dans Farinelli aussi, elle a joué.
Poulet au vinaigre, Le Zèbre. Elle est dans le film Pouquet.
Le Zèbre, elle est géniale. Et donc, dans Thelma, Louise et Chantal, il y a aussi Thierry Lhermitte. Et la petite sœur de Vanessa Paradis aussi. Et Alison. Et c'est vrai qu'en plus, voilà, c'est. Voilà, en plus, elle avait un humour, mais incroyable. Autant elle pouvait émaner, en fait, la classe et tout ça, mais elle pouvait avoir un humour, incroyable et elle se prenait pas au sérieux, c'est ce que j'adorais chez elle. Malgré que, que j'estime que la profession, j'espère que cette année, les gens de la profession lui rendront un bel hommage parce que elle le mérite. Et puis qu'elle a toujours été très effacée comme ça, et que jamais aucun scénariste ne lui a apporté en fait un rôle principal en fait, ce qui est dommage.
Il y a une très jolie photo sur les réseaux qui circule où on la voit à côté de Françoise Sagan et de Françoise Fabian.
Ah, je l'ai pas vue.
Que vous verrez, c'est une image en noir et blanc où Caroline Cellier est toute jeune. C'est une pour la présentation des Fougères bleues, qui était un texte de Sagan. Et c'est une très jolie photo que vous pourrez voir. Valérie est là également. Bonjour Valérie.
Oui, bonjour.
Et
bonjour Pascal.
Vous habitez dans la Drôme. Vous lui rendez hommage.
À Caroline Exactement. Cellier. Je voulais lui rendre hommage sur un joli souvenir pour moi, parce que nous fêtions avec mon mari, malheureusement aujourd'hui décédé, notre anniversaire de mariage à la Closerie des Lilas, un repas, un dîner entre amoureux. Et Caroline Cellier était attablée à la table à côté avec avec de nombreux amis. Donc ça parlait fort, ça buvait, c'était joyeux. Et j'ai trouvé très délicat parce qu'elle a dû s'apercevoir à un moment donné que peut-être elle gênait un peu les amoureux que nous étions. Et elle s'est levée, elle nous a offert 2 coupes de champagne et elle s'est excusée. Et ce matin, lorsque j'ai appris son décès, c'est vraiment ces images qui étaient des images heureuses pour moi, qui me sont revenues. Et voilà, je voulais la remercier pour ce geste que j'avais vraiment trouvé adorable.
Je vais vous lire ce que Pierre-Louis Basse, notre confrère, a écrit sur Twitter. « Je me souviens de ce soir de printemps quand Paris devient bleu et léger, cette femme dont les lunettes noires ne parvenaient pas à cacher. » Le si doux sourire, discret d'être reconnu, la sensualité, la bouche d'aube a tombé. Caroline Cellier, ma passante éternelle.
C'est magnifique. Voilà, donc moi j'en ai un souvenir plus simple, mais tout aussi joli. Et voilà, donc c'est tout à fait à ça que j'ai pensé ce matin en entendant l'annonce de ce décès.
Moi, ce qui me frappe, c'est ce que disaient Valérie et Nathalie, ce que vous dites toutes les deux, c'est qu'il y a pour les comédiens parfois une filmographie très importante, qui a marqué le public. Et puis parfois, c'est autre chose. Ce n'est pas que la filmographie, c'est aussi une présence.
Tout à fait. Et un petit geste comme celui-là était vraiment gentil, parce qu'elle était entourée de plein d'amis. Simplement, elle a senti que peut-être elle nous gênait peut-être, ce qui n'était pas tout à fait le cas. Mais enfin, c'était vraiment, je vais trouver ça très charmant de sa part.
Mais tout je suis frappé, moi, depuis quelques heures, combien elle était assez peu présente ces dernières années, aussi bien au théâtre qu'au cinéma, et en même temps, combien il y a un écho à cette disparition, comme si les gens avaient repéré le talent. Et pour un comédien, on peut être un immense comédien sans avoir, c'est paradoxal peut-être ce que je veux dire, sans avoir une filmographie exceptionnelle.
Exactement, donc, parce que c'est vrai qu'elle n'en... Voilà, je n'ai pas, vous avez parlé tout à l'heure de l'année des Méduses, mais c'est vrai que tout de suite, comme ça, je n'aurais pas sa filmographie en tête. Ça me reviendrait certainement. Mais la personne,
c'est
personne, je la vois dans son élégance, dans tout ça, je la vois très bien.
Et puis lié également forcément à Jean Poiret qui a été...
Tout à fait. Vous savez, c'était quand même un couple assez exceptionnel.
Oui. Qui est mort d'ailleurs très jeune. Je regardais Jean Poiret est mort en 1992. Il n'avait que 66 ans, Jean-Marie.
Jean Poiret. Il a laissé un sacré souvenir.
Bien sûr. C'est énorme. C'est un monstre c'est un génie, en fait, Jean Poiret. C'est ça la réalité. Un génie de l'interprétation, un génie de l'écriture.
À la fois drôle et émouvant, à la fois dans tous les registres. Voilà, c'est ce que je voulais juste
Vous l'avez très bien dit.
Juste rajouter un petit mot, je suis une grand-mère et donc il n'est pas question pour moi de ne pas vivre ce Noël avec mes petits-enfants, mais j'ai trouvé un masque, des petits masques merveilleux avec des Pères Noël et je crois qu'il faut le mettre.
Le soir de Noël ?
Ah, écoutez...
Donc vous allez dîner ? Non mais vous, attendez...
Dîner, je vais essayer de me... mais je veux avoir le plaisir de les accueillir, sentir un peu. Trouver un masque un peu drôle avec des petits Pères Noël dessus.
Vous garderez le plus longtemps possible durant la soirée.
Le plus longtemps possible, exactement. Alors peut-être que c'est peut-être un moindre mal, mais je crois quand même qu'il faut que nous fassions attention.
Merci Valérie de ce témoignage, merci vraiment.
Voilà, merci beaucoup.
Vraiment. Nous vous embrassons et nous vous souhaitons par avance un joyeux Noël. Il est 13h57.
Moi aussi, très bon Noël.
Et on va poursuivre cette discussion. La question du jour, c'était, seriez-vous prêt à être la première personne vaccinée en France ? Et nous serons dans une seconde avec Patrick Vignal, qui est le député de La République En Marche de l'Hérault, qui sera en direct avec nous. Il est peut-être déjà là d'ailleurs, Monsieur Vignal. En tout cas, il est là, Monsieur Vignal. Je le salue alors s'il est déjà là. Bonjour, Monsieur Vignal. À tout de suite.
Comment allez-vous, Pascal Pro ?
Mais écoutez, je vais bien, même si l'atmosphère.
Prêt à vous faire vacciner, vous aussi ?
Mais je me ferai vacciner si vous me demandez de le faire, Monsieur Vignaud. À tout à l'heure. Monsieur Vignal, Monsieur Vignaud.
À tout à l'heure.
À Vignal des Vignaud. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Il est 14h et on va être donc avec Patrick Vignal dans une seconde. Le flash avec Olivier Bois dans quasiment tout de suite. Mais puisque Pascal est avec nous, Pascal, vous êtes contre le vaccin, c'est bien cela ?
Absolument, oui.
Alors, vous allez nous dire pourquoi, bien évidemment, le flash avec Olivier Bois.
D'accord.
Et la France. Est-ce qu'on commence le flash ?
Oui.
La France d'abord, qui pourrait commencer à vacciner avant la fin de l'année. Le feu vert de l'Union européenne pour Pfizer-BioNTech est en effet attendu dès le début de la semaine prochaine après la réunion de l'Agence du médicament prévue donc lundi. On en parlera ce soir avec Jean-François Delfrécy, le président du conseil scientifique. Il est l'invité de Thomas Soto dans RTL Soir à 18h15. Jean-François Delfrécy qui le dit, il faut être encore patient et prudent pendant encore 6 mois. L'Organisation mondiale de la santé ne dit pas autre chose, affirmant aujourd'hui craindre une troisième vague au début de l'année prochaine. L'OMS qui recommande de porter le masque pendant les différents repas de Noël et qui précise enfin que la mission internationale chargée de comprendre l'origine de cette pandémie se rendra en Chine en janvier. Le verdict est attendu tout à l'heure à 16h au procès des attentats de janvier 2015. Les 11 accusés risquent de 5 ans à la perpétuité, soupçonnés d'avoir aidé et connu surtout les projets terroristes d'Amédée Coulibaly et des frères Kouachi, ce qu'ils contestent. Le jury international du Vendée Globe a tranché sur les compensations pour tous les marins qui ont participé au sauvetage de Kevin Escoffier. C'est Jean Le Cam qui avait recueilli le naufragé sur son propre bateau qui récupère le plus de temps, 16h15. Mais à noter que Yannick Bestaven, qui lui est passé en plus leader cette nuit, récupère en plus 10h15. Et puis le football, 15e journée de Ligue 1. Ce soir, d'abord à 19h, parmi les matchs Reims-Nantes et Dijon-Lille. Et puis à 21h, Lyon-Brest et PSG-Lorient, entre autres. Un mot du temps de demain qui restera pluvieux sur les régions de l'Est et sur l'Occitanie, mis à part les départements alpins qui resteront au sec. Partout ailleurs, un temps sec avec des nuages et des éclaircies.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Donc Pascal, vous restez évidemment bien avec nous et vous allez nous expliquer dans une seconde pourquoi ce vaccin, vous n'y croyez pas trop. Laurent Tessier.
Le Premier ministre Jean Castex présente à partir de 16h30 à l'Assemblée nationale le plan de vaccination à l'Agence du médicament européenne se réunira lundi prochain, plus tôt que prévu, afin d'autoriser ou non le vaccin Pfizer-BioNTech. Bon alors cette campagne, c'est pour quand ? Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, était l'invité ce matin de nos confrères de BFM.
On a toujours été très clair sur le fait que dès lors que nous aurions la validation européenne, nous pourrions démarrer dans la foulée la campagne de vaccination en France, y compris si c'est fin décembre. Oui, elle pourrait commencer avant la fin de l'année.
15 millions de Français vaccinés avant l'été, c'est l'objectif du gouvernement. En attendant, certains ont déjà quitté la ligne de départ. La campagne de vaccination a démarré au Royaume-Uni le 8 décembre à 7h31.
Elle aura attendu 90 ans pour accéder à la notoriété. Margaret Keenan, une grand-mère britannique, est devenue aujourd'hui la première patiente au monde à recevoir le vaccin Pfizer-BioNTech.
Et elle a même lancé un message à celles et ceux qui se méfient du vaccin.
Allez-y, si je peux le faire, vous aussi. C'est la meilleure chose qui nous soit arrivée ces derniers temps. C'est une maladie horrible. Tout ce qui nous permet de nous en débarrasser est un bonus.
Et deuxième personne à avoir été vaccinée.
To be vaccinated or not to be. William Shakespeare s'est fait vacciner aujourd'hui en Grande-Bretagne.
Non, non, ce n'est pas une blague, c'est un homonyme. Alors, qui sera la première personne vaccinée? Qui sera la première personne vaccinée en France? Les politiques, bah tiens, doivent-ils montrer l'exemple? Comme l'ancienne ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, elle avait décidé de se faire vacciner devant les caméras contre le H1N1 le 12 novembre 2009. Et que ferait notre Premier ministre Jean Castex?
D'abord, là où vous me croyez sur parole, je ne figure pas dans les publics prioritaires déterminés par la HAS. Et donc, voyez bien, le premier inconvénient, c'est que si je suivais votre recommandation, d'aucuns pourraient considérer que c'est un passe-droit. Et c'est pas dans les habitudes de la maison. Sur le terrain de l'exemplarité au sens effet d'entraînement. Je vous avoue que je ne me suis pas posé la question à ces termes.
En attendant, il faut le rappeler, restons extrêmement prudents encore. 3 à 6 mois, c'est le message du président du conseil scientifique Jean-François Delfrécy. Il sera l'invité de Thomas Soto à 18h15 dans RTL Soir. Mais seriez-vous prêt à être la première personne vaccinée en France? Qu'en pense le médecin généticien Axel Kahn? S'il avait été au Royaume-Uni il y a quelques jours,
j'aurais laissé la reine se faire vacciner avant moi, mais après la Queen, oui, Axel Kahn serait vacciné en public.
Les Français se déplaceront-ils en masse pour se faire vacciner? L'humoriste Philippe Cavrivière émet quelques doutes.
Au moment de se faire vacciner, le Français va retrouver son civisme légendaire, sa politesse, son altruisme. Toutes ces qualités s'y présentent dans les transports en commun ou à la queue dans la boulangerie. C'est la queue pour le vaccin? Allez-y, allez-y, je vous en prie. Passez devant, je suis pas pressé, moi.
Avec nous, Patrick Vignal, député La République En Marche de l'Hérault.
Et je le remercie, Patrick Vignal. Vous allez défendre la position du gouvernement qui va nous pousser à nous vacciner. Nous sommes d'accord, Patrick Vignal.
Oui, tout à fait.
Et je vous propose d'écouter peut-être Pascal, puisqu'il est délégué médical. Pascal,
oui.
Et il va vous expliquer pourquoi il est réticent. Rebonjour, Pascal.
Oui, rebonjour, oui. Oui, donc j'ai envie en préambule de dire science sans conscience, mais que ruine de l'âme. Hein. Ça, c'est Rabelais. Et puis, bon, bah, j'entends le Premier ministre, évidemment, lui, courage fuyant. Hein. Je crois que après, il utilise ses arguties pour dire que non, mais il n'aurait pas besoin de se faire vacciner tout de suite, parce que c'est vrai que on parle de vaccin, d'abord, c'est pas un vaccin, c'est de la thérapie génique. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, c'est bien ça le risque, hein, parce que on nous présente ça comme quelque chose de tout à fait anodin. Mais, enfin, moi j'ai lu un article, Thomas Madden, c'est le PDG de d'Acuitas. Acuitas, c'est le fournisseur de Pfizer et Moderna. Hein, c'est celui qui fournit les lipoprotéines qui transportent l'ARN, parce que l'ARN messager ne tient pas, d'accord, hein, donc il se désagrège très rapidement, donc il faut le mettre dans une nanoparticule, hein, liposomale, donc pour le transporter jusqu'aux cellules, pour qu'il s'intègre. Encore faudra-t-il qu'il s'intègre, hein, parce que s'il éclate à ce moment-là, avant, bon, on ne sait pas ce que ça va faire. Et donc, Monsieur Madden, Thomas Madden, eh ben, dit que lui, il a été un peu bousculé, alors il fournit les nanoparticules, mais il n'est vraiment pas sûr, il n'a pas pu faire les tests de stabilité. D'accord?
Donc, bon, monsieur Vignal va vous répondre, peut-être.
Ouais. Alors moi, Pascal, moi, j'entends, hein, vous savez, moi je vais être clair, hein, on doit sonner cette charge contre le virus. Et il y a deux sentiments qui animent les Français, à mon goût, c'est la peur et la méfiance. D'abord, la peur de l'inconnu, et moi je peux le comprendre, hein, et donc je ne demande pas aux Français, moi, d'obéir, mais d'adhérer. Et c'est pour ça que je dis, moi, tout simplement et clairement, que nous, la classe politique, nous devons être en première ligne et nous devons nous d'abord nous faire vacciner. Et qu'on ne me dise pas qu'on va prendre 500 ou 800 doses de vaccins. C'est le premier point. Je pense qu'il faut aller plus loin. Il faut qu'on ait aussi des icônes. Et je suis ravi qu'Assel Khan se fasse vacciner. Des sportifs, des journalistes comme Pascal Praud, des gens qui pèsent. Parce qu'il faut effectivement qu'on montre cette voie-là. Et moi, je ne veux pas que vous obéissiez, Pascal. Moi, je veux arriver à vous convaincre. Mais si vous, vous ne voulez pas vous faire vacciner, mais que vous respectez aussi les gestes barrières, l'important, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on s'en sorte. Et je l'assume aussi, nous n'avons pas été très bons pour les masques, donc ça a entraîné un flou et un manque de confiance des Français. Nous ne devons pas rater cette vaccination qui est, avec les gestes barrières, le masque, les gels, un complément pour tenir encore 6 mois, parce que la France est au bord du burn-out, parce que je pense au monde de la culture, je pense à mes manadiers qui abattent les bêtes, je pense aux bars, aux restaurants. Moi-même, je suis patron d'une salle de sport. Moi, j'ai envie qu'elle redémarre, cette France, et mettons les bons outils, ayons une France unie.
Eh bien, on va laisser passer une première page de pub. Je ne sais pas si Pascal est convaincu.
Ouf, mais pas du tout. Hein. Mais bon, passez votre page de pub.
Pourquoi, alors, Pascal que... Vous feriez quoi, vous, alors?
Ah ben, moi, je...
Vous êtes parlementaire, vous faites quoi, Pascal? Ça m'intéresse.
Ah ben, écoutez, mais je crois
voilà.
qu'il faut
Qu'est-ce
laisser...
qu'on fait?
Eh ben, éventuellement les gestes barrières, mais laisser vivre les gens, quoi. Parce que moi, je vois des gens tous les jours avec des masques. Bon, des masques très discutables, hein, des masques en tissu. Hein, jusqu'à preuve du contraire, le tissu ne filtre pas les nanoparticules. Enfin, c'est une hérésie. Hein. Sinon, moi, je me demande pourquoi les Franciliens, depuis des années, ne portent pas des masques pour combattre les microparticules, qui sont donc des particules beaucoup plus grosses que les nanoparticules.
On continue la discussion. On continue la discussion. Après la pause, à tout de suite.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Seriez-vous prêt à être la première personne vaccinée en France? C'est notre question générique. Nous sommes avec le député de la République En Marche de l'Hérault, Patrick Vignal, qui évidemment défend la politique vaccinale du gouvernement. Et Pascal l'a interpellé assez vigoureusement d'ailleurs. Pascal, je vous propose de conclure peut-être ce que vous étiez en train de dire.
Oui, bah, j'étais en train de dire et de parler des masques, puisqu'on parlait des masques. Et moi, je renvoyais au fait que... Alors, j'ai envie de dire qu'on se fiche des Franciliens depuis 20 ans par rapport aux micro-particules. On n'avait qu'à leur dire de porter des masques, puisque c'est si simple, finalement, hein, de lutter contre les microparticules. Et encore plus...
Tu n'as pas tellement de rapport, à vrai dire, avec ce qui
Pascal.
Nous...
Eh bien si, parce que les masques qui sont soi-disant, qui filtrent, les masques en tissu, hein, faites par des tutos, enfin bon, bref, et des vulgaires tissus, filtrent les nanoparticules, qui peut le plus, peut le moins. Donc, elles filtrent les microparticules. Enfin. Et je vous rappelle que les particules fines sont des microparticules.
Monsieur donc, Vignal, pourquoi... il répond et...
Enfin. Pascal, moi je veux pas vous convaincre, vous avez votre liberté, mais franchement, de quoi on parle? Le Covid, c'est 30 000 personnes qui sont décédées, le Covid, c'est des soignants, des médecins qui sont au feu. Vous pouvez pas quand même nous expliquer que c'est un problème de masques et de nanoparticules. On est dans une situation très difficile, on n'a pas les bonnes solutions, on essaie de trouver les moins mauvaises. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui, il y a 50% des Français qui sont prêts à se faire vacciner. J'estime qu'à mon âme et conscience, je suis dans l'obligation pour retrouver de la légitimité, de la crédibilité, de la confiance, de moi-même aller au feu et de me faire vacciner. Mais je ne demande pas que tous les Français se vaccinent. Moi, ce que je demande, c'est aussi, si vous voulez, de retrouver une France unie, une France qui ne se tourne pas le dos en politique, en entreprise, avec les citoyens. Et c'est vrai, quand j'écoute d'autres discours, c'est un discours complotiste. En fait, on fait rien de bien. Vous ne croyez pas les médecins? Vous ne croyez pas les retours qu'on a tous les jours? Alors, ça devient très compliqué. On n'avance pas comme ça. Moi, je veux qu'on se redresse. Je veux que vous puissiez aller dans les bars, dans les restaurants, aller au théâtre, se cultiver. Voilà, c'est ça l'objectif de faire de la politique. C'est d'avoir une vraie vie qu'on a perdue depuis des mois. Pas que nous, la planète entière.
Eh bien, merci Patrick Vignal. Et merci Pascal, surtout. On va enchaîner peut-être avec... c'est peut-être plus intéressant d'avoir des contres pour essayer que vous les convainquiez, Monsieur Vignal.
Oui, mais c'est pas...
Nous sommes avec Francis.
Pascal, c'est pas gênant qu'il soit pour ou contre. Voilà, moi j'ai envie de vrai.
Vous essayer de.
Mais ils ont raison.
Ils vont essayer, pourquoi pas, de défendre leurs arguments. Ainsi, Francis, qui habite Nancy en Meurthe-et-Moselle. Pourquoi, bonjour Francis, vous êtes enseignant. Pourquoi vous n'êtes pas prêt à vous faire vacciner?
Bonjour Pascal et bonjour à vos auditeurs. Je suis pas prêt à me faire vacciner parce que tant que je n'ai pas les réponses aux nombreuses questions qu'on peut se poser. D'ailleurs, je voudrais corriger tout à l'heure, je crois que c'est un député que vous avez là qui vient de dire à traiter de complotiste votre auditeur précédent, lui disant il y a 30 000 morts, etc. Je croyais qu'on avait approché les 60 000.
J'ai rectifié, donc, c'est 60 000 morts, effectivement.
Oui, oui, oui.
Voilà. Ah oui, non, mais 30 000 et 60 000, c'est pas tout à fait la même chose. Et puis, ce qu'il faudrait aussi voir, c'est à la fin de l'année, le bilan complet des décès en France cette année, en tenant compte de l'évolution démographique. Il y a déjà des articles qui paraissent, qui sont basés sur les données de l'INSEE. Alors, on peut penser que l'INSEE est également complotiste, un organisme d'État complotiste, et qui montre qu'on n'aura quasiment pas plus de mortalité, puisqu'il donne une augmentation de 0,1 à moins 0,1.
Je suis d'accord, mais qu'est-ce que vous voulez dire par rapport au vaccin ? Quel est le rapport avec le vaccin ? Parce que cette épidémie, elle existe. Qu'est-ce que vous voulez dire au fond ? Une fois, moi j'entends ce que vous dites, mais vous voulez dire quoi ? Que l'épidémie n'existe pas ? Mais elle existe. C'est ça que je ne comprends pas. Bien sûr qu'il n'y aura peut-être pas plus ou moins de morts. D'abord, il y a moins de morts parce qu'il y a eu des confinements et les gens ont moins roulé, donc déjà il y a moins de morts sur la route. Mais au fond. Oui, mais au fond, qu'est-ce que vous voulez dire ? Elle existe l'épidémie. Elle n'est pas inventée.
Oui, oui.
Donc voilà. Les 60 000 morts, ils existent aussi.
Oui, alors les 60 000 morts, il faut voir s'ils sont morts d'une nouvelle maladie qu'on ne connaissait pas ou s'ils sont morts parce que cette maladie a accéléré leur mort.
Non mais ça, vous avez raison. Il y a mourir du Covid et mourir avec le Covid. Ça, j'entends ça. Voilà. Des gens qui, effectivement, ont un cancer et que le Covid a accéléré leur mort, ça existe, c'est incontestable. Simplement, j'ai pas de statistiques là-dessus. Donc, je fais une différence entre mourir du Covid et mourir avec le Covid.
Exactement.
C'est vrai. Vous avez raison.
On fait la même différence.
Vous avez
ensuite,
raison.
Sur le vaccin, il y a plusieurs types de vaccins, il y a plusieurs technologies pour élaborer des vaccins. Alors, il se fait que j'ai un de mes enfants qui a travaillé au MIT à Boston et qui est ingénieur physicien, grande école parisienne, sur les nanoparticules. Je parle bien de nanoparticules. Je ne fais pas la confusion entre nano et micro comme l'auditeur précédent. L'ARN messager, vaccin à technologie ARN messager. D'un point de vue marketing, c'est vachement bien. ARN messager, le messager, c'est quelque chose qu'on va vous envoyer comme ça dans votre corps. L'ARN messager, c'est quoi ? C'est une technologie qui est étudiée au MIT depuis plus de 20 ans, qui s'appelle maintenant, non pas de l'injection, mais de la transfection de nanoparticules. On ne sait pas quel type de nanoparticules on est en train d'essayer de nous balancer dans le corps. Est-ce que c'est de la nanoparticule longue ou de la nanoparticule courte ? On n'a aucune donnée scientifique.
Là, vous m'avez un peu perdu. Je ne sais pas si M. Vignal suit, mais moi, je suis un peu perdu.
J'ai un peu de mal, moi aussi.
Vous voyez, c'est ça le problème, c'est que les gens qui...
Cher monsieur, si vous voulez qu'on soit pragmatique, moi j'ai annoncé le chiffre de 30 000 parce que je partage un peu votre avis. Il y a des gens qui sont morts du Covid, il y a des gens qui sont morts avec le Covid pour d'autres, si vous voulez, symptômes. Donc on est d'accord sur ça. Moi, si vous voulez, tout simplement, à un moment donné, face à cette épidémie planétaire, il faut arriver à faire confiance à des gens. Moi, j'ai plutôt envie de dire que je veux faire confiance aux conseils scientifiques, aux médecins. Donc vous savez qu'on va avoir bientôt une autorisation. Sanofi met plus de temps, ils sont basés sur Montpellier d'ailleurs, le siège, plus de temps à sortir le vaccin, et c'est très respectable. Et on a dans quelques jours des scientifiques qui vont vous dire, voilà, ce vaccin est normalement à 99% souhaitable pour se faire vacciner. Après vous, cher monsieur, si vous ne voulez pas vous faire vacciner, c'est votre droit, j'ai pas de souci avec ça. Nous, ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est qu'il y ait des gens qui se vaccinent, ceux qui veulent, et ceux qui sont indécis, c'est à nous à faire en sorte qu'ils puissent adhérer. Et c'est pour cela que je dis que la classe politique doit montrer l'exemple. Voilà, mais je ne vous oblige pas à vous faire vacciner, cher monsieur. Vous savez, on traverse une période tellement difficile que j'ai l'impression un peu que c'est le chacun pour soi, le sauve qui peut. Et c'est vrai qu'on l'a vu pendant les masques, on n'a pas été très bon. Chacun était sélectionneur de l'équipe de France. À un moment donné, nous, on a une crise, on a des bars, des hôtels, on a une économie. Donc maintenant, il faut bien qu'on se redresse. Et si chaque fois on refait le match, si chaque fois on explique que chacun a un scientifique qui connaît, qui ne veut pas, on ne va pas s'en sortir. Vous avez vu l'Allemagne, la différence qu'il y a dans l'Allemagne ? Les gens sont plus respectueux. Et je le dis, cher monsieur, Peut-être que nous, on n'est pas assez audible, on n'est pas assez transparent, on n'a pas assez de clarté. Mais il faut bien qu'on avance, sinon on ne va pas avancer.
Eh bien justement, on va avancer, on va laisser passer une pause et puis on va prendre des auditeurs qui sont pro-vaccin. Ensuite, je pense à Cédric, notamment, qui sera là, ou à Véronique. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Et vous pouvez appeler au 3210 où vous trouverez peut-être Evan, Cyranouche, Olivier et Pierre-Louis pour recueillir vos premiers témoignages. Nous sommes avec Cédric. Bonjour Cédric.
Oui, bonjour Pascal.
Vous écoutez notre conversation depuis tout à l'heure. Vous êtes pro-vaccin.
Bah oui, bien évidemment, parce que moi, il y a quelque chose qui m'a étonné, c'est votre sondage par rapport au.
Qui n'est pas un sondage, hein, c'est une consultation. Je le dis chaque fois, c'est une consultation. Les gens appellent comme ils veulent. Hein. Il n'y a pas faut faire attention avec ces chiffres-là. On prend toujours un peu de distance avec.
Oui,
c'est des votes par Internet, les gens votent un peu comme ils veulent, vous voyez. C'est une tendance, c'est une indication, mais ce n'est pas un sondage.
Donc ça peut être une indication aussi par rapport aux personnes, donc dans ma famille, dans les gens que je côtoie. Au départ, le confinement, le premier confinement, hein, dès qu'on a parlé d'un vaccin, les gens étaient pour. Ah oui. Et maintenant, quand on voit un petit peu, et même... par rapport au sondage, par rapport aux gens que je côtoie, c'est non, je ne me ferai pas vacciner. Ben alors là, je ne comprends plus du tout la France.
Monsieur Vignal peut vous répondre. Moi, j'ai une petite explication là-dessus. Allez-y, Patrick Vignal.
Vous savez, je vais vous dire. Je pense qu'en fait, il faut qu'on organise autrement cette révolution qu'on doit faire au niveau médical. Je pense qu'en fait, on a trop centralisé les choses. Vous savez, j'ai un exemple à Montpellier. J'ai le SDIS, les sapeurs-pompiers, qui ont été capables, si vous voulez, de travailler sur le dépistage. Et il faut, Pascal et votre auditeur, qu'on soit capable de décentraliser. Il faut surtout que ce soit aussi les médecins généralistes, vos pharmaciens. On a confiance à son médecin. Je suis convaincu que la personne, aujourd'hui, ne pas se faire vacciner, quand la dynamique va démarrer, quand il va y avoir des gens qui se feront vacciner et qui, au bout de quelques temps, expliqueront que tout fonctionne bien, quand votre médecin généraliste, votre pharmacien, votre maire du village vous dira que lui aussi, il a fait, donc c'est un peu normal, c'est anxiogène en ce moment. Dites-moi, tiens, quelqu'un qui est heureux en ce moment. Écoutez, ce matin, pour une fois, ça fait un mois que je me suis levé en me disant, il y a quelque chose de positif. J'ai visité une entreprise chez moi, qui fait des bornes électriques, qui va faire une révolution. Eh bien, je peux vous dire, Pascal, que je suis rentré chez moi pour déjeuner, j'ai retrouvé un peu la banane de me dire, on va se relever. C'est pour ça que je dis aux gens qui sont négatifs que ça ne sert à rien. Donc, on va s'organiser, se structurer. On a besoin de l'ensemble des Français. On a besoin de puiser de l'énergie pour essayer de sonner la charge contre ce virus.
Bon, vous êtes positif et ça s'entend. C'est vrai aussi que convenez que les prises de parole, par exemple d'Éric Combe, infectiologue réputé, qui a dit « je vais attendre » ou « je n'ai jamais vu autant d'effets indésirables sur un vaccin » ont parfois un peu brouillé le message sur le vaccin. Et convenez aussi que la parole médicale, depuis des mois, comme elle n'est pas... unanime, mais c'est sans doute difficile d'avoir que des médecins qui pensent tous la même chose, ça brouillait aussi le message auprès des auditeurs, auprès des Français, et qu'ils sont un poil méfiants, puisqu'ils, que disent-ils au fond? Ils disent, il y en a pas un qui dit la même chose. Voilà. Alors, est-ce vrai? Est-ce pas vrai? Je n'en sais rien précisément, mais c'est vrai que le message médical est brouillé, Patrick Vignal, et qu'il y a du boulot pour convaincre tout le monde.
Vous savez, sur la chaîne CNN, je me suis permis de citer ce professeur Éric Combe. Quel défaut de communication. Moi, j'essaie de dire à un moment donné, c'est pas que je veux convaincre, c'est de partir sur une dynamique. Un grand expert qui nous explique, je me fais vacciner, mais j'ai peur parce que j'ai pas toutes les contraintes. Je préférerais qu'il se taise et quand il aura tous les certificats, il vienne. Et c'est vrai que, je l'ai dit tout à l'heure, on a 65 millions de Français, 65 millions de sélectionneurs de l'équipe de France aussi. Mais c'est français, tant mieux, c'est culturel. C'est à nous nous à rassurer, Pascal. C'est à nous à être exemplaires. C'est à nous à montrer au front. C'est à nous à rassurer.
De votre idée de tous se faire vacciner, députés et ministres et gouvernement, je pense que ça peut être effectivement intéressant pour le grand public. Et au moins, les gens se diront, s'ils y vont eux, c'est qu'il n'y a pas de risque. En tout cas, merci Patrick Vignal de votre intervention.
C'est avec plaisir, en
merci
tout cas.
Merci de votre bonne humeur et de votre énergie. Il en faut ces temps-ci. Il fait beau à Montpellier ?
Il fait très très beau. Vous avez le bonjour de Jean-Bernard Stern,
ah,
journaliste sportif à Midi Libre, qui m'a dit, parce qu'il me suit, il me dit tu donneras le bonjour à Pascal.
Mais parce qu'il fut un temps où j'allais sur les terrains de football, la paillade, avec le président Nicolas, et j'adorais ça. Ben, écoutez, vous lui transmettez nos amitiés et allez Montpellier. Il est 14h26, merci à Monsieur Vignal, merci à tous les auditeurs. Dans une seconde, ce sera Laurent Tessier qui répondra à notre question, et puis Flavie Flamand.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RTL.